Bon matin, bonjour, bienvenue à l'émission Les Voisines. C'est l'édition du vendredi 24 novembre 2017. Hélène Bédard vous parle avec moi. Francine Forget, bonjour.
Bonjour Hélène.
Et Catherine Brunet, bonjour.
Bonjour.
Et Mathieu Tessier à la régie.
Bonjour.
Et voilà. C'est. Excusez-moi. Allons-y donc avec nos présentations de ce matin. Francine, vous allez nous parler de quoi ce matin?
Bon, alors on va continuer le dossier arbre, si je peux m'exprimer ainsi, alors qu'on a entamé la semaine dernière. Et on va parler de la sylvothérapie. Et du côté techno, on va parler des avancées médicales avec l'intelligence artificielle.
Toujours, toujours. Pointez vos reportages. Merci. Et Catherine, qui est de retour du Salon du livre?
Oui, tout à fait. Un peu échevelée. Il y avait du monde la semaine dernière au Salon du livre. Mais je vais terminer cette semaine ma lecture de nouveaux projets. J'ai pas mal fait le tour déjà de la revue dans les dernières semaines. Je vais vous parler de résilience et de Anne Dorval cette semaine.
Excellent. Merci. De mon côté, je vais vous parler de... Je vais vous terminer mon texte sur Les mots qui libèrent de Noémie Mercier. Et quelques textes qui touchent évidemment mon créneau, les personnes seniors. On dit les personnes âgées, je crois. On vous revient dans quelques instants. Et voilà, Hélène Bédard au micro. Je vais terminer cette semaine ma lecture de l'enquête de Mme Noémie Mercier, cette grande enquête qu'elle a faite dans la prison de femmes de Joliette. Voici le dernier volet fort intéressant. La bibliothèque de la prison de Joliette est sans prétention, avec sa collection d'environ 9000 volumes et son budget d'acquisition situé entre 5000 et 1000 $ par an, auquel s'ajoutent quelques 300 livres donnés chaque année par des organismes. Dans le local lumineux, plus petit qu'une salle de classe, j'ai vu sur les rayons impeccablement rangés des romans de Stieg Larsson, Anne Hébert, Michael Crichton, Saint-Exupéry, François Sagan, des ouvrages sur l'histoire, politique, spiritualité et aussi des recueils de recettes. Un petit Larousse à reliure brune datant d'un autre siècle. On y trouve aussi deux ordinateurs antiques sans connexion Internet, proscrites dans tous les pénitenciers, une imprimante et quelques fougères. Si ce n'était de l'initiative de Christine, le lieu serait sans doute en plus piteux état. Depuis qu'elle a commencé à y travailler, il y a 3 ans, les heures d'ouverture sont passées de 3 à 9 par semaine. Épaulée par 3 autres détenus, elle fait le ménage dans l'inventaire désuet, informatiser le catalogue, réclamer des fonds supplémentaires pour les achats. Soucieuse d'amadouer les plus farouches, elle a aussi entièrement repensé l'organisation des rayons, plaçant les ouvrages faciles à lire près de l'entrée, par exemple, mais en l'absence d'employés affectés spécialement à cette tâche, qui sait ce qu'il adviendra de cet héritage lorsqu'elle sortira de tôle dans quelques années. « Je travaille à passer le flambeau à d'autres femmes », me dit-elle. Un jour, ce seront peut-être ses œuvres qui trôneront sur une étagère, car la bibliothécaire au sourire de Sphinx écrit des romans, et oui, une trilogie, l'histoire d'une fille de bonne famille qui tombe amoureuse d'un mauvais garçon, dont elle vient d'envoyer le premier tome à des éditeurs. Si elle parvient à se faire publier, Christine jure de revenir entre ses murs pour rencontrer ses anciennes compagnes en tant qu'auteur cette fois. Une fois là, le club de lecture de Joliette reçoit la visite d'un écrivain. En 2015, c'est l'Ontarien Lawrence Hill, auteur d'Aminata, qui s'est déplacé. En ce soir de canicule, les femmes attendent celui qui est devenu la coqueluche du pénitencier. La rencontre se tient pour l'occasion dans la chapelle, une pièce éclairée au tube fluorescent à laquelle des objets hétéroclites n'arrivent pas à insuffler de l'âme. Devant ces femmes qui l'acclament avec une fébrilité adolescente, l'auteur fanfaronne, évoquant pour briser la glace ses chiffres de vente, les revenus qu'il en tire. Manifestement, il ne sait pas encore à quel auditoire il a affaire. Pendant près de 2 heures, les femmes qui sont en prison l'interrogent sur ses techniques narratives, sa méthode de recherche, ses sources d'inspiration. Il dit « Je suis sorti de là complètement sur le cul. » Elle avait dépouillé mes livres avec une minutie que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai été soufflé par la pertinence de leurs questions. Ça a fini par être une expérience profondément humaine. Comme dit une femme, elle n'avait jamais terminé un livre de sa vie avant de tomber sur son livre. Les 400 pages, je les ai dévorées en 4 jours. Émerveillée par le miracle qu'elle découvre. Je n'arrêtais plus. J'en oubliais de manger, j'en oubliais d'aller dormir. Et les titres de la tétralogie sont si populaires qu'il faut maintenant s'inscrire sur une liste d'attente pour les emprunter à la bibliothèque. Je peux vous faire un commentaire, dit une autre femme. Une femme aux grands yeux ahuris, dont la lourde peine trahit un sombre passé, en tendant son exemplaire à l'auteur pendant la séance de dédicace. Au début, j'haïssais votre livre, puis après, ça m'a fait pleurer. J'en ai eu des frissons. Ce que j'ai compris, c'est que malgré toutes les erreurs qu'il a fait, le héros de votre livre, il avait le droit de se pardonner et de s'aimer lui-même. Voilà qui termine l'immersion de 6 mois de notre journaliste Noémie Mercier, qui a passé 6 mois donc à la prison de Joliette et que je vous ai partagé au cours des dernières semaines. Je reprendrai en terminant l'introduction de cette enquête et je vous le cite. Cette enquête s'intitulait « Les mots qui libèrent ». Ces femmes ont fraudé, cambriolé, même tué. Mais donnez-leur à lire et elles redécouvrent un sens à leur vie. Francine, je vous cède la parole.
Alors, merci. On va parler de sylvothérapie. C'est dans le point du 2 novembre, le dossier Arbre. L'auteur de l'article, Marie-Christine Morosi. Le biologiste japonais King Lee pointe les bénéfices des promenades dans les bois. Méthode considérée comme scientifique depuis 1927, efficace notamment contre la tuberculose et l'asthme, la sylvothérapie entrait autrefois, au même titre que la balnéothérapie, dans les programmes de soins. Mais elle a peu à peu été détrônée par la thalassothérapie ou par des techniques artificielles telles que la luminothérapie, l'usage de brumisateurs et autres aérosols. Voilà pourtant 13 ans que le professeur King Lee, biologiste japonais, professeur associé à la Nippon Medical School à Tokyo et fondateur en 2007 de la Japanese Society of Forest Medicine, a entrepris de démontrer l'impact bénéfique des arbres sur notre métabolisme, tant sur le plan psychologique que physiologique. Ses recherches, qui ont fait de lui une sommité internationalement reconnue et unique en matière de sylvothérapie, ont fait naître une vague d'intérêt qui, après avoir conquis l'Asie et les États-Unis, commence à gagner l'Europe. Tout commence en 1982, lorsque le Japon lance un très ambitieux programme de recherche sur les bienfaits des promenades en forêt, un rituel ancestral pratiqué dans tout l'archipel nippon. Entre 2004 et 2012, ce ne sont pas moins de 4 millions de dollars que le gouvernement investit dans cette mission nationale de santé publique consacré à ce qui est dès lors baptisé le bain de forêt, terme que le professeur Lee traduit, lui, plus volontiers par « douche de forêt ». Emmenant plusieurs groupes de volontaires citadins en promenade dans des secteurs plus ou moins boisés, le scientifique a étudié méthodiquement dans son laboratoire les effets de ses sorties sylvestres sur ses cobayes, analysant notamment, avant et après, leur sang et leur urine. Et il en a tiré, schémas et tableaux à l'appui, des conclusions sidérantes. En vrac, diminution des indicateurs de stress, des syndromes de dépression, d'anxiété et de colère, système immunitaire dynamisé, augmentation des cellules tueuses naturelles contre les maladies telles que le cancer, les si précieuses NK pour Natural Killers, régulation positive du rythme cardiaque, donc de l'hyper ou de l'hypotension, aussi efficace qu'avec une prise de médicaments adaptés. Chez les diabétiques, réduction de la quantité de glucose dans le sang et prévention de l'obésité. L'immersion forestière, excellente contre les maladies respiratoires, l'arthrose, l'hyperactivité, l'insomnie, s'est aussi révélée efficace pour réduire la production d'adrénaline et faire baisser le taux de cortisol, l'hormone du stress que sécrète notre corps. N'en jetez plus. D'autant que si les effets positifs s'observent dès la première demi-heure d'immersion forestière, les effets bénéfiques maximaux sont atteints dès le deuxième jour et restent au même niveau durant les 30 jours suivants. Autrement dit, une simple immersion mensuelle permet de maintenir ses taux. Mais attention, à durée égale, une promenade en ville ou dans un parc clairsemé n'a pas du tout le même effet. Il est impératif que l'espace planté soit suffisamment dense. Cure, pris très au sérieux, les travaux du professeur Lee ont abouti à la création au Japon d'une soixantaine de centres thérapeutiques aménagés dans des régions choisies pour la qualité de leurs massifs forestiers et la beauté des paysages, vallons, ruisseaux, montagnes, cascades. On peut s'y promener encadré de guides spécialement formés, soit pour des escapades courtes, soit pour des cures de quelques jours, en fonction des pathologies. Selon la naturopathe Laurence Mons, formée à l'Université de Turin à la sylvothérapie, il existe au Japon deux types de cures. Des cures passives, avec marche lente pour ralentir le rythme, et des cures actives sur des parcours plus stimulants, rapides et sportifs. Et bonne nouvelle, le professeur Lee a entrepris l'écriture d'un livre bilan si attendu qu'il faisait partie des trois hot books aux droits très disputés lors de la récente foire du livre de Frankfurt. En lice avec quatre autres éditeurs pour décrocher les droits francophones, les éditions First ont fait monter les enchères. Responsable éditorial chez cet éditeur, Marie-Anne Jost, qui a récemment fait découvrir avec succès Marie Kondo, l'héroïne du rangement, et Al Elrod, l'inventeur du Miracle Morning, ne pouvait laisser passer une telle publication. Les recherches de King Lee font écho à toutes nos préoccupations de citadins stressés en manque de nature, s'enthousiasme-t-elle. La parution en France est annoncée pour le printemps 2018 et on espère en même temps au Québec. Donc, c'est un reportage de Marie-Christine Morosi dans Le Point du 2 novembre.
Fort intéressant. Alors, allons vite en forêt, n'est-ce pas?
Oui! Tout de suite après l'émission.
À vous, mes chers mal-aimés, à vous qui avez rêvé de terres un peu moins brûlées, à vous qui êtes venus jusqu'ici, jusqu'à moi, cueillir le fruit du regret délaissé dans la forêt des mal-aimés. Dans la forêt des mal-aimés, chaque arbre est un membre oublié, chaque feuille une âme délaissée. Dans la forêt des mal-aimés, comme il fait bon s'y promener. Pour pourquoi donc êtes-vous venu dans cette forêt au coin perdu où les murs tapissés de fleurs ne font que rappeler le malheur? Mais pourquoi donc êtes-vous venu dans cette forêt au coin perdu? Venez à pied, bois d'eau de corneille, venez vite boire le liquide vermeil. Venez vous saouler de blanchi sommeil, ici c'est surtout tira moins que bien. Si vous osez suivre le chemin, pourquoi donc êtes-vous venu dans cette forêt au coin perdu où les murs tapissés de fleurs ne font que rappeler le malheur? Mais pourquoi donc êtes-vous venu dans cette forêt au coin perdu?
Eh oui, dans la forêt des mal-aimés, c'était Pierre Lapointe.
Et nous sommes de retour, Hélène Bédard, Francine Forget, Catherine Brunet et Mathieu Tessier. Catherine.
Oui.
Vous êtes là.
Je suis là, toujours dans le nouveau projet, la section « Le mode d'emploi ». Et c'est un article sur la résilience. L'article s'appelle « Comment développer notre résilience en 6 étapes ». C'est un article de Marie-Claude Élie Morin. Le mot « résilience » est en perte de sens à force d'être mal utilisé. Ce qu'il évoque réellement, c'est la capacité extraordinaire de certains individus et systèmes à faire face à un traumatisme, pour mieux rebondir ensuite. À l'heure des bouleversements environnementaux, cette aptitude pourrait nous être fort utile et nous aider à inventer les villes et les collectivités de demain. Selon les auteurs du petit traité de résilience locale, paru à Éco-Société en 2017, 3 bouleversements majeurs nous forceront sous peu à revoir nos façons de vivre. Le réchauffement climatique, la détériorisation précipitée de l'environnement et la raréfaction des ressources sur lesquelles reposent nos civilisations. Chercheurs à l'Institut Momentum de Paris, Agnès Sinaé, Raphaël Stevens, Hugo Carton et Pablo Servigné croient que nous, individus, collectivités et élus locaux, devons impérativement développer notre résilience si nous voulons préserver les rouages fondamentaux de nos sociétés. Résumé. Réhabiliter le mot résilience. Très galvaudé, le mot résilience est souvent associé à la psychologie populaire. Dans les faits, le terme renvoie à l'aptitude des individus à traverser les épreuves et à en ressortir plus fort, et la capacité des systèmes, nos villes et infrastructures par exemple, à maintenir leurs principales fonctions malgré les chocs, même si cela implique une réorganisation interne. Plutôt que de marteler des expressions telles que décroissance, rupture avec le passé, qui nous dérobent toute possibilité d'agir devant l'effondrement imminent de nos sociétés actuelles, choisissons consciemment de parler de résilience. Porteuse d'espoir, celle-ci suppose que nous allons créer quelque chose, pas nous laisser aller. Miser sur l'emploi local. Qui dit raréfaction des ressources naturelles, pétrole, eau, bois, etc., dit augmentation radicale du coût de ces ressources. Avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer, instabilité financière, gonflement du prix de la nourriture et de l'énergie, inégalités sociales croissantes, les emplois qui dépendent de systèmes technologiques complexes, de longues chaînes d'approvisionnement et de production, de l'énergie bon marché, du pouvoir d'achat et de consommation élevé, de l'expansion du crédit seront très fragilisés. Plus concrètement, les chercheurs prévoient que les domaines de l'aviation, du tourisme et des services financiers connaîtront une forte diminution de leur activité à mesure que le coût de l'énergie augmentera et que les revenus disponibles chuteront. A contrario, les emplois liés à des secteurs non délocalisables seront en forte demande. Agriculture biologique, élevage et soins des animaux, impressions typographiques, radio à ondes courtes, par exemple. C'est là qu'il faut investir dès maintenant. Préparer les villes au rationnement. Des centaines de métropoles à travers le monde ont déjà commencé à prendre des mesures pour limiter leurs dépenses aux énergies fossiles. À Londres, le gouvernement municipal soutient l'optimisation thermique des nouveaux bâtiments, la réduction de la consommation énergétique, la mise en place de toits et de murs végétaux pour réduire les îlots de chaleur et le recours à l'air climatisé. Singapour et Sao Paulo se préparent à la montée du niveau des mers en imposant de nouvelles normes de construction. De nouvelles agglomérations urbaines misent aussi sur un transport en commun rapide et sécuritaire afin de réduire la dépense à l'automobile, un mode de transport qui serait hautement fragilisé en cas de pénurie énergétique. D'autres stratégies peuvent également être adoptées en ce sens. Réduire les vitesses maximales, encourager le covoiturage et le télétravail, valoriser le commerce de proximité, mettre en place les péages urbains et des taxes sur les véhicules. Revoir les infrastructures pour pouvoir faire face aux coupures soudaines d'énergie. À la suite du séisme du 11 mars 2011, le Japon a connu l'une des peines d'énergie les plus sévères n'ayant jamais touché un pays industrialisé. Dès le lendemain de la catastrophe, une agence gouvernementale spécialisée en efficacité énergétique a émis des recommandations pour éviter que le pays se trouve à nouveau dans un tel état de vulnérabilité. Chaque année, les industries japonaises doivent ainsi réduire de 15 % leur consommation d'énergie par rapport à l'année précédente. Les employés sont même encouragés à porter des vêtements légers au bureau afin de supporter la chaleur en l'absence de climatiseurs. Autre exemple, après l'ouragan Sandy en 2012, New York a exigé des opérateurs de télécommunications qu'ils s'équipent de façon à pouvoir résister aux événements extrêmes. Plutôt que de subir les conséquences le moment venu, préparons-nous aux situations de crise qui mettront peut-être en péril nos infrastructures électriques ou électroniques. L'Agence internationale de l'énergie recommande d'ailleurs au gouvernement d'être prévoyant et d'élaborer à la fois des mesures d'urgence en cas de coupure soudaine et des mesures régulières destinées à réduire la consommation globale d'énergie. Repenser le rapport au territoire. Les changements climatiques sont en effet rétroactifs de la consommation d'énergie fossile en cours depuis 200 ans. Si nous n'avons pas pu mesurer les conséquences directes du productivisme sur notre milieu avant que les dommages s'accumulent, c'est entre autres parce que nous avons perdu le sentiment d'interdépendance qui nous relie au reste du monde. Il nous faut reconsidérer le territoire comme un bien commun. Idéalement, chacun devrait connaître la provenance exacte des aliments et de l'électricité qu'il consomme, ainsi que des déchets qu'il produit. Dans l'ère post-pétrole, la sécurité alimentaire passera obligatoirement par la production locale. Celle-ci pourra prendre plusieurs formes, de la ferme au jardin collectif. La structure pyramidale et hiérarchisée du territoire, les grands centres utilisent les régions comme source d'approvisionnement, devra aussi être pensé au profil de multiples bio-régions, soit de plus petites collectivités portées par le développement local. Et dernier conseil pour la résilience, cultiver l'espoir et la résilience personnelle. Pénurie d'énergie, catastrophe climatique ou nucléaire, biodiversité menacée, famine et guerre. Devant l'accumulation de mauvaises nouvelles, il est normal de ressentir de la peur et d'opter pour le déni. Mais celui-ci empêche le processus de résilience de se déployer. La résistance psychologique se développe uniquement lorsque l'on traverse des expériences difficiles et que l'on accepte de vivre les émotions négatives. Cela suppose donc un certain travail de deuil, admettre que les choses ne seront plus comme avant, renoncer à l'avenir que nous avions imaginé pour concentrer nos efforts sur une transition sécuritaire. Plusieurs techniques peuvent, selon les psychologues, nous aider à renouer avec la joie et la façon et façonner notre résilience. Tenir un journal de bord, écrire et lire de la poésie, méditer, créer de la beauté, retrouver le sens et le sacré, et surtout nous reconnecter aux autres et à la nature.
Nous voici de retour. J'ai trouvé un texte ici qui est un entretien avec Michel Tremblay. C'est un texte de Claudia Larochelle d'octobre 2017. En juin dernier, Michel Tremblay soufflait sur ses 75 bougies, un chiffre qui ne semble pas le ralentir puisque, fidèle à ses habitudes automnales, l'écrivain chouchou des Québécois offre à ses lecteurs un nouveau roman, Le peintre d'aquarelle d'ailleurs, qui était au Salon du livre. Et qui lève le voile sur l'autre facette créatrice du sensible artiste. Dans cette nouvelle œuvre, vous témoignez par la voix du cousin Marcel, devenu vieux, de l'apport de la peinture dans la vie. De quelle manière cet art s'avère-t-il complémentaire à l'écriture? Il répond : Depuis 25 ans, l'aquarelle est la seule chose qui me sort de mon écriture, qui m'oblige à me concentrer ailleurs, à me sortir de mon travail. C'est plus qu'un hobby, c'est un vide d'être dont j'ai désormais besoin pour récupérer. Question. La souffrance mentale est présente dans vos lignes. Quand on est créateur et qu'on prend de l'âge et qu'on s'affranchit de plus en plus de ses maux, ou bien si c'est le contraire, il dit ceci. J'ai bien peur qu'on soit plus susceptible de les ressentir parce qu'on s'écoute trop. C'est ce que j'ai essayé de traduire avec le personnage de Marcel à 76 ans. Tout tourne autour de lui, même les paysages qu'il dépeint. Le bonheur n'existe pas en art, il n'est pas intéressant. Le rideau s'ouvre. Quelqu'un dit « Nous sommes heureux », le rideau se referme, fin de la pièce. Alors que le malheur, lui... Il ajoute « Le chiffre 75 est un couperet qu'il faut bien accepter. Devant la façon qu'a notre société de traiter ses aînés, je suis soulagé de pouvoir vivre de ma fortune. Le plus dur à prendre, évidemment, c'est le corps qui nous abandonne petit à petit. » La seule consolation, c'est qu'on est un peu moins niaiseux qu'à 20 ans. Chaque matin, quand le trac me noue les entrailles au moment de commencer à travailler, et il est resté le même après 52 ans, le fait de savoir que j'ai à dire, mais pas comment ça va sortir, est toujours aussi excitant. Le grand saut dans le vide, chaque jour, je le fais. C'était un texte, une entrevue avec Michel Tremblay, faite par Claudia Larochelle en octobre dernier. Nous vous quittons un petit moment. Restez avec nous. La suite des voies de service se poursuit après la pause.
So.
Ben, l'oncle Soul, c'était sa chanson Soul Man.
Et nous revoilà de retour après cette courte pause, cette belle intermède musicale. Hélène Bédard, Francine Forget, Catherine Brunet. Je vais poursuivre ma lecture avec un article du Devoir de José Blanchet qui est paru cette semaine, le 17 novembre. Et ça s'intitule « Les centenaires malgré eux », avec une petite larme de brandy en passant. Nous y voilà. Ici, ce que j'ai devant moi, c'est un texte où on parle de Georgette, 106 ans, et de Berthe, 103 ans, Gaudreau, c'est les deux sœurs. Elle dit ceci. « On mange du yogourt tous les jours, matin et soir. Je sais bien pas si c'est ça qui nous garde vivantes, mais on en mange. » En Afrique, on dit d'un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Pour Alban, c'était le survenant, le sorcier de l'île Anticosti, Trentarpin, un homme et son péché. Pas qu'il les ait lus, non, mais il aurait pu être dès lors. J'ai retrouvé Alban et tous ses contemporains, nés au début du 20e siècle, dans le fabuleux livre de portraits « Vivre 100 ans », signé et illustré par les sœurs Justine Latour et Marie-Noëlle Blais, 32 et 36 ans, de la génération Y. Elles se sont entichées de leur grand-mère d'abord, puis ont décidé de faire parler une douzaine d'ancêtres qui avaient le bon tic-tac, le branlant et toute leur tête pour raconter. Ainsi, l'insoumise Claire Séguin, qui vit seule et conduit toujours sa voiture à 102 ans, elle s'enfile de l'huile d'olive et du citron chaque matin et une petite lampe de brandy pour brûler les microbes, dit-elle. La vieille dame a tartiné son pain avec de la misère, plus souvent qu'à son tour, surtout durant la Grande Dépression. À l'époque, on s'accrochait à la foi. Aujourd'hui, on s'agrippe à l'espoir. De toute façon, les deux finissent par nous tuer. N'empêche, l'espérance de vie, encore l'espoir, ne cesse d'augmenter et on prévoit que le nombre de centenaires triplera d'ici 10 ans dans un Québec où le pouvoir gris s'impose. Nous, on trouvait qu'il y avait urgence de les immortaliser et qu'ils laissent une trace, disent les deux sœurs Latour-Boret, qui ont fait le livre « Vivre 100 ans ». Elles sont attendries et fascinées par le quatrième âge. Cette génération d'avant-guerre a retrouvé avant les années une liberté de parole et de gestes qui leur faisait cruellement défaut. Elle ne craint pas les curés, fait mentir les docteurs et les pronostics de démence, a vécu au mode et semble avoir conservé une certaine candeur aux antipodes du cynisme en vogue. « J'ai laissé les pilules dans la pharmacie, puis j'ai confié ma santé à une bouteille de Saint-Rémy, me dit Claire, mais juste un petit verre. » Les deux auteurs cherchaient l'élixir qui nous permet de vivre 100 ans. Elles ont trouvé pour chaque personnage une phrase magique qui permet de traverser la journée. Cela a un côté apaisant. Ça aide à relativiser nos gros tracas sur l'échelle d'une vie. Madeleine Rousseau, 102 ans au compteur, leur a confié qu'elle vivait la plus belle tranche de sa vie depuis 20 ans dans sa résidence, en phase avec une liberté nouvelle, le plaisir de vivre sans inquiétude ni stress. Cette génération a connu le confort tardif. Les femmes ont dû se battre pour obtenir le droit de vote, avoir accès à la contraception, qui est arrivée trop tard pour elles. Les hommes devaient subvenir aux besoins de leur grosse famille. On pensait peu à soi, beaucoup à son prochain. Si j'ai un conseil à donner à un jeune de 20 ans, c'est d'être généreux, de ne pas juste penser à soi-même. Il y a juste ça pour rendre heureux, souligne Conrad Gilbert, l'horloger de 101 ans, dont les aiguilles de la montre ne se sont pas encore arrêtées sur ce siècle individualiste. Aldéric Parent, 101 ans, dit « Dans les cimetières, on a un lot que j'avais acheté il y a longtemps avec ma famille. Puis moi, il y avait marqué 1916 à 1900 des petits points. Mais là, il va falloir qu'ils effacent ça et qu'ils mettent 2000 quelque chose quand je vais mourir. » Ils ont vécu les changements radicaux du 20e siècle sur le terrain de la réalité, assisté à toutes sortes de libérations, tranquilles ou non. On peut fréquenter l'école, connu la guerre, les privations, les sacrifices, le neuf avec du vieux et même le vieux avec du vieux. Et pourtant, notre époque leur tourne le dos, ne s'intéresse pas à leur contribution. À l'heure où les scientifiques nous prédisent la fin du monde avant le crépuscule, ils ont vécu à la débrouille, dans la simplicité involontaire, sans jamais gaspiller, en usant d'ingéniosité pour arriver à survivre dans un pays de givre. La solidarité y était pour beaucoup. On se retroussait les manches et on se serrait les coudes. Justine, la photographe, et Marie-Noël, la libraire, ont déjà quelque chose en commun avec l'ancien temps. Elles vivent en famille avec le chum de Justine et leur fils de 1 an. Elles espèrent, comme les sœurs Berthe et Georgette, comme Claire et sa sœur Aurore, terminer leurs jours ensemble, bercées par leurs souvenirs communs. Moi, ça m'a donné envie de vivre jusqu'à 100 ans. J'ai hâte d'être vieille, lance-t-elle, Marie-Noël, que ces rencontres ont ragaillardi. Dans le sillon des rides, dans la résilience des dos voûtés, au-delà des raideurs du corps, la sagesse s'est tapie. C'est un patrimoine vivant, insiste Justine, mais ils se sentent comme s'ils ne servaient à rien. Personne ne les écoute, ils nous l'ont dit, ils étaient ravis qu'on s'intéresse à eux. Avec notre obsession de la productivité, nous les avons négligés. Nous, on espère donner envie aux jeunes de se tourner vers la génération antérieure, car nous serons tous perdants. Ils nous enseignent comment aborder la vie. Le seul regret de ces vieilles âmes est probablement d'avoir été enterrées bien vivantes 30 ans avant leur temps. Nous voici de retour et Francine va nous amener quelque part.
Oui, bien, on reste dans Le Devoir parce que c'est un autre texte publié dans Le Devoir le 18 novembre sur un tout autre sujet par Isabelle Paré. Alors, les avancées de l'intelligence artificielle qui s'apprête à bouleverser la pratique médicale. Des logiciels qui surpassent des radiologues dans le dépistage des tumeurs ou plus habiles à prédire l'évolution d'une scoliose que des médecins formés dans les meilleures universités. L'arrivée de l'intelligence artificielle annonce une petite révolution dans la profession médicale. Adieu, stéthoscope et rayon X. Les secrets du diagnostic ne seront bientôt plus l'apanage des disciples d'Esculape. Sur le bureau du docteur Anne Tang, radiologiste et chercheur au Centre de recherche du CHUM, un écran projette les tumeurs dépistées par un logiciel entraîné aux méthodes d'apprentissage profond. L'outil peut reconnaître seul les cellules malignes dans le foie et trier les tumeurs en fonction de leurs particularités. Ces nouvelles machines au potentiel décuplé sont sur le point de chambouler la médecine et de reléguer l'image du bon docteur Wilby et de plusieurs spécialités au livre d'histoire, pensent plusieurs analystes. Parmi eux, les radiologistes et les pathologistes. Des spécialités médicales dont une grande part du travail consiste en analyse d'images ou de tissus. Or, des études menées aux États-Unis avec de super logiciels entraînés aux méthodes d'apprentissage profond ont démontré que ces médecins virtuels pouvaient battre à plate couture de doctes comités de dermatologues dans le dépistage des mélanomes, cancer de la peau. Il est clair que les spécialités plus techniques vont un jour ou l'autre être remplacés, affirme Catherine Régis, professeure à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Pour une foule de médecins, le travail diagnostique sera chambardé par la reconnaissance automatisée des pathologies. La société IBM vend déjà à des hôpitaux son super logiciel Dr. Watson, capable, lorsque connecté aux millions de données de patients, de poser des diagnostics en des temps records. Comment? Grâce aux données, ces machines emmagasinent l'expertise de millions de cas pour apprendre à diagnostiquer les nouveaux patients. Même en 40 ans de pratique, un médecin ne peut être exposé à autant de situations et arriver à une telle précision, ajoute la titulaire de la chaire du Canada en politique collaborative du droit des politiques de santé. Ces outils qui carburent à l'intelligence artificielle dépistent non seulement des tumeurs invisibles aux yeux expérimentés, mais les classent en catégories qui échappent à l'observation humaine. Le volume précis d'une tumeur ou sa texture peut aider à prévoir son évolution. Les machines peuvent faire cela très facilement, mais pas nous, explique humblement le Dr. Tang, qui applique les techniques de reconnaissance de l'image au dépistage du cancer du foie. Le logiciel apprend à reconnaître les formes, puis les organes, puis finit par dépister lui-même les tumeurs, dit-il. Super médecin, mais ce n'est pas demain la veille que les ex-confrères du Gaëtan Barrette se retrouveront au chômage, pense ce radiologue. Il faut un pilote dans l'avion, pense le docteur Teng. Notre travail va changer. Les tâches techniques et répétitives seront moins importantes. Nous deviendrons davantage des radiologistes d'intervention, pense le chercheur, qui croit que ces outils pourraient être très utiles pour cibler, parmi les radiographies de milliers de patients, celles que les radiologues devraient lire en priorité, affirme le docteur Tang. Dans son laboratoire, le professeur à Polytechnique Samuel Kadouri travaille lui aussi à entraîner des logiciels, dont un capable de déterminer si de jeunes patients atteints de scoliose auront besoin ou pas d'une grande chirurgie. Les logiciels prédictifs, alimentés par des milliers de données et d'images, sont parfois plus performants que les médecins pour prédire l'évolution probable d'une maladie, y compris de troubles mentaux ou neurologiques. Des logiciels sont déjà utilisés pour prédire si des patients sont atteints d'un début d'Alzheimer ou de déficit cognitif mineur. L'Institut neurologique de Montréal a entraîné l'année dernière un logiciel d'apprentissage profond à prédire si de jeunes bébés étaient susceptibles de développer des troubles de l'autisme. En plus des images, les logiciels analysent l'ensemble des notes médicales de milliers de dossiers, les médicaments reçus et l'évolution de la maladie, puis font des prédictions, affirme le titulaire de la chaire de recherche du Canada en imagerie médicale et en radiologie d'intervention. Loin de les faire disparaître, ces puissants outils, grâce au forage de données, transformeront plutôt les docteurs en super médecins. Écueil en vue. Mais la technologie a beau exister, son usage répandu se heurte encore à une foule d'obstacles juridiques, éthiques et économiques. Qui sera responsable en cas d'erreur diagnostique? Un robot? L'usage de données soulève aussi l'enjeu de la confidentialité des informations personnelles, ainsi que celle du consentement aux soins et de l'acceptabilité sociale. Un système plus performant, pense Catherine Régis, pourrait être jugé insatisfaisant par les patients. Et dans un système de santé déjà exsangu, ajoute-t-elle, que penser des sommes colossales à investir pour développer ces machines, alors que des services de base, comme les soins à domicile ou les bains dans les CHSLD, ne sont toujours pas comblés? Pour bien des médecins, le spectre de l'intelligence artificielle demeure une lointaine réalité, y compris pour le Collège des médecins, dont le comité éthique n'a pas encore adopté de position officielle sur la question, mais entend mettre ce sujet épineux à son programme pour 2018. C'était Isabelle Paré dans Le Devoir du 18 novembre 2017, dans un dossier sur les technologies dont on reparlera certainement la semaine prochaine.
Avec grand plaisir d'ailleurs, Francine. Nous sommes de retour. Nous étions en grande discussion suite au sujet de Francine, mais nous allons céder la parole maintenant à Catherine.
Oui, alors je retourne dans Nouveaux projets. Cette fois-ci, c'est un entretien avec Anne Dorval et c'est des propos recueillis par Judith Olivier. La comédienne nous présente quelques-uns des principes qui guident ses actions et donnent du sens à sa vie. Principe numéro 1, la générosité. Je n'aime pas le calcul, les choses trop organisées. Je prends un immense plaisir à partager et à donner aux autres. On m'a aidé quand j'étais plus jeune. J'essaie d'aider à mon tour. Je trouve qu'on a besoin de se tenir ensemble, de faire la fête, pour souligner ce qui va bien. Et célébrer la grandeur de l'être humain, des fois. On parle trop d'économie aujourd'hui et il nous faut désapprendre à compter. Principe numéro 2 selon Anne Dorval, la beauté. On sous-estime beaucoup l'importance de la beauté dans nos vies. On la relègue au superficiel alors qu'elle stimule les sens et répond à un besoin profond. Ça n'a rien à voir avec la richesse ou la pauvreté. C'est une question de raffinement. On a besoin de la nature qui est bien plus forte que nous. On a besoin de poésie. On a besoin de tout ce qui ne sert à rien en apparence, mais qui change quotidiennement notre façon de penser. La véritable beauté nous aide à vivre, à créer des liens entre nous. Il y a trop de vulnérabilité dans le monde, de vulgarité, trop de laideur. Et ce manque de goût atteste d'un manque d'abandon, de réflexe et de culture. Principe numéro 3, l'exigence de durabilité. En tant que société, on n'est pas assez riche pour s'acheter des affaires cheap. On n'a pas les moyens de s'entourer de choses laites, mal conçues et peu durables. Puisqu'elles occupent un terrain volé à la nature, les villes devraient être exemplaires. Je ne comprends pas qu'on ne fasse pas appel aux meilleurs architectes pour chaque nouvelle construction. Faisons moins ou faisons mieux. Less is more. La spontanéité. Je me suis engagée dans un métier très insécurisant et je passe beaucoup de temps à avoir peur. Peur de l'avenir pour mes enfants, peur des dégradations de l'environnement, peur de l'avion, peur de la folie des êtres humains. Mais paradoxalement, je suis aussi profondément convaincue du caractère néfaste de l'excès d'anticipation. Le meilleur antidote à la peur est, selon moi, la spontanéité. On devra l'encourager et valoriser la prise de risque. Partir en voyage quand on n'a pas assez d'argent pour s'acheter un billet d'avion, par exemple. C'est effrayant, oui, mais si on n'essaie pas, il ne se passe jamais rien. Et s'il ne se passe rien, qu'est-ce qu'on fait ici, à part attendre la mort? La sensibilité. Je suis tannée de me faire dire que je suis trop sensible. On est, à mon sens, une bien meilleure personne quand on délaisse sa carapace. Même si oui, c'est difficile. La société célèbre une forme d'insensibilisation, mais il faut refuser de s'habituer à la violence, au manque d'empathie, à l'érosion de l'humanisme et à la cruauté, notamment envers les animaux. Toute vie, végétale, animale, humaine, est importante et mérite qu'on la respecte. On dépend tous les uns les autres. On ne sera jamais, jamais trop sensible. Principe de l'acceptation. On se doit d'être exigeant envers soi-même, bien sûr, mais cela doit passer par l'acceptation de ses imperfections. Il vaut mieux accueillir ses contradictions que de s'avouer vaincu d'avance. Même si on le sait inaccessible, la perfection reste une belle quête et la sagesse encore plus. Elle suppose du temps, du travail sur soi. Elle nécessite qu'on continue à se cultiver et à chérir les choses qui ne sont pas utiles, mais grâce auxquelles on se sent moins seul. Et dernier principe d'Anne Dorval, la foi en l'impossible. J'ai toujours en tête cette phrase chère à mon ami Xavier Dolan. À l'impossible, je suis tenu. Tout se peut, j'en suis convaincue. Y croire, c'est résister. Donnons-nous le droit de rêver, de vouloir changer le système, d'avoir foi en l'impossible, car oui, nous y sommes tenus. Voilà, propos recueillis par Judith Olivier d'Anne Dorval.
Retour, Hélène Bédard, Francine Forget, Catherine Brunet. Eh bien, pour faire une suite à cette zénitude de ce matin, moi, je vais vous parler des astuces feng shui pour nos pièces de vie. Voici quelques suggestions pour se rendre la vie plus zen. Le feng shui repose sur la circulation d'énergie. Alors, les plantes vertes, elles, nous aident à faire circuler l'énergie. Donc, il serait important de s'en procurer. Et on suggère ici de belles couleurs vertes, évidemment, et la forme la plus arrondie possible. On réservera les cactus et les compositions florales séchées pour d'autres pièces ou les pièces à l'extérieur. Aérez votre pièce pendant au moins 15 minutes par jour. Il faut favoriser un air sain et permettre à l'énergie de mieux circuler. Les ambiances viciées et étouffantes ne sont pas propices au bien-être et à la détente. Et en plus, ça favorise la prolifération des microbes. Alors, aérez 15 minutes par jour votre pièce préférée. N'oubliez pas de ranger les choses. Pour que l'énergie puisse circuler librement, il faut que l'espace ne soit pas encombré. Chaque chose doit avoir une place définie. Prévoyez donc une boîte ou un coffre à rangement pour ne rien laisser traîner et évitez d'acheter trop de meubles. Ils ne permettent pas de se mouvoir dans l'espace avec fluidité. S'aider du pouvoir des images. Privilégiez des cadres avec des représentations apaisantes. Excusez-moi.
C'est de ma faute. J'ai amené une plante verte dans le studio pendant qu'elle parlait. Je suis désolé. Et là, j'ai créé un
voilà.
Fou rire.
Ben voilà, désolé, là, je vais me reprendre. Alors voilà, on dit donc ici, privilégier des cadres avec des représentations apaisantes et inspirantes. Les représentations violentes ou inquiétantes sont évidemment à écarter. Choisissez des couleurs opposantes comme le bleu, le jaune, par excellence. Eh bien là, mettre des photos de famille, disposer des photos de bons moments passés en famille, favorise la circulation d'une bonne énergie. Cela renvoie aux sentiments positifs éprouvés lors de la prise de photographie. C'est une bonne idée. Les photos de couple, en revanche, sont de préférence à réserver pour la chambre couchée. Utilisez Je suis vraiment désolé, je m'excuse. Utilisez le miroir à bon escient. Le miroir joue un rôle de renvoi d'énergie. En fonction de l'endroit où il est placé, il peut soit diluer l'énergie, soit la renforcer. Il faut ainsi éviter de placer un miroir en face d'une porte ou d'une fenêtre ou d'accrocher deux miroirs l'un en face de l'autre. Le miroir doit avant tout renvoyer une image positive. Dans l'art du feng shui, il est important de convier cinq éléments pour une bonne circulation d'énergie. Il s'agit du bois, de l'eau, du feu, de la terre et du métal. En mêlant différents objets faits de ces matières, la pièce parvient à l'équilibre. Fort intéressant. Arrondir ses angles. L'énergie se heurte aux objets pointus et saillants, ce qui lui permet de ne pas bien circuler. Si on a la possibilité, on arrondira les bords des meubles au moyen d'une meuleuse si cela est possible. Mais si le budget le permet, on remplacera sa table carrée, sa basse ou rectangulaire par une table ronde. On troquera son canapé aux formes géométriques contre un canapé aux formes arrondies. Variez les ambiances. Le salon, on dit qu'il est multifonction. Pour vivre chaque moment de la journée, pleinement et en adéquation avec la pièce dans laquelle on se trouve, il est important de pouvoir moduler les ambiances. La journée, on privilégiera l'action en court-circuitant les nuisances, c'est-à-dire la télévision ou le visuel. Et le soir venu, l'ambiance sera tamisée et propice au repas, bougie, musique douce, matières enveloppantes. Et n'oubliez pas la luminosité. Si le budget le permet, un puits de lumière, une baie vitrée. Le soir venu, des lumières artificielles seront multiples et créeront une ambiance lumineuse variée. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. Je suis désolé de mon fou rire de tout à l'heure.
Ben non, faut pas être désolé.
Et voilà. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute avec nous. Merci, Francine.
Merci, Hélène.
Vos articles fort intéressants. Merci, Catherine.
Merci, Hélène.
Vous avez apporté beaucoup de zénitude. Merci, Mathieu. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Au plaisir. Bonjour tout le monde.